Ce matin, je vous partage depuis Bonn. J'espère que tout fonctionne en ce qui concerne la technique. Donc, nous avons déjà vu beaucoup de communion. Nous avons entendu beaucoup. Et déjà après la deuxième réunion, j'ai dû réfléchir. Et je me suis dit, est-ce seulement la deuxième réunion? Il me semblait que nous en avions déjà beaucoup avant. On a eu tellement d'impressions, il y a tellement d'impressions qui ont rempli mon cœur. Je dis vraiment, donne-moi la grâce de saisir avec les saints tout ce qu'il nous veut nous donner, tout ce que tu veux nous donner, Seigneur. Et le Seigneur parle. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende ce que l'Esprit dit aux églises. Et donc, nous en arrivons à la sixième réunion. Là, sur le résumé, c'est le point numéro 6. Et ainsi, j'aimerais au début reprendre quelques points. Je ne vais pas tout reprendre, naturellement. Le Seigneur répète toujours à nouveau afin que nous l'entendions. Parfois, nous ne l'entendions qu'à la troisième, voire la quatrième fois. Et il y a un autre principe encore. Quand le Seigneur dit quelque chose, cela est confirmé par deux ou trois personnes. Donc, il ne faut pas repousser le fait de partager quelque chose que quelqu'un a déjà partagé. Parfois, nous avons quelque chose sur notre cœur, le Seigneur nous touche, nous hésitons et un autre se lève. Ouvre, allume son micro et le partage. Et alors, je me dis, ah, c'était aussi mon témoignage. Donc, je ne le dis pas. Non, parle, confirme-le une deuxième fois. Peut-être même un troisième le confirmera une troisième fois. Ainsi, le Seigneur confirme sa parole. Donc, si maintenant je reprends des points, vous l'aurez déjà écouté dans les messages ou dans les différents témoignages. que cela ne vous trouble pas. Cela nous affermit, en fait. Donc, je commence avec Apocalypse 5, que nous relisions ces versets dans Apocalypse 5. Donc, Apocalypse, les versets 5 à 10. Et je pense qu'on va le faire de la manière suivante, que ces versets puissent être lus dans les différentes langues par des frères et sœurs que nous n'avons pas encore trop entendus, et chacun un verset. Donc, Apocalypse 5, verset 5 en polonais. Donc, il est bien que quelqu'un ait la liberté, le courage de lire ce verset en polonais. Donc, moi, je vais le lire en français pour que les Français puissent l'entendre. Et l'un des vieillards me dit, ne pleure point, voici le lion de la tribu de Juda, le rejeton de David, a vaincu pour ouvrir le livre et ses sept sceaux. Amen. Il y a une sœur qui lit ce même verset en polonais. Merci Seigneur.
Amen.
Je l'ai compris. Amen. Nous tous, nous avons vraiment cette grâce. Et le verset 6 en roumain. J'ai vu qu'il y a des frères et sœurs roumains. Donc le verset 6. Et je vis au milieu du trône et des quatre êtres vivants. Et au milieu des vieillards, un agneau qui était là comme immolé. Il avait sept cornes et sept yeux qui sont les sept esprits de Dieu envoyés par toute la terre. Amen. Y a-t-il quelqu'un? Donc, oui, voilà, la sœur commence en roumain. Je le relis. Et je vis au milieu du trône et des quatre êtres vivants et au milieu des vieillards, un agneau qui était là comme immolé. Il avait sept cornes et sept yeux et qui sont les sept esprits de Dieu envoyés par toute la terre. Amen. Le verset 7, en russe s'il vous plaît. Donc, on attend que quelqu'un commence à parler. Donc, les autres langues peuvent déjà se préparer. Vous aussi, vous parlerez. Donc, en russe, le verset 7. Il vint et il prit le livre de la main droite de celui qui était assis sur le trône. Amen. Il y a un frère russe qui le lit. Amen. Il vint et il prit le livre de la main droite de celui qui était assis sur le trône. Amen. Le verset 8 en français. Amen. Quand il eut pris le livre.
Tenant chacun une harpe et des coupes d'or remplies de parfums qui sont les prières des saints. Amen.
Amen.
Amen. Le verset 9 en italien. Et il chante un cantique nouveau en disant: tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir les sceaux, car tu as été immolé et tu as racheté pour Dieu par ton sang des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toute nation. Amen. Et le verset 10 en anglais. Amen. Tu as fait d'eux un royaume et des sacrificateurs pour notre Dieu, et ils régneront sur la terre. Amen. Amen. Louez le Seigneur pour cette image que le Seigneur nous montre ici, dans Apocalypse 5. Nous voyons un trône dans les cieux, et sur le trône est assis l'agneau. L'agneau se montre ici différemment. Il ne se montre pas comme dans les évangiles. Et nous devons le connaître aussi ainsi. C'est l'agneau actuel dans notre époque. L'agneau est sur le trône et le résultat est au verset 10. Ils régneront sur la terre. Donc le trône est dans les cieux et un règne sur la terre. Qui règne sur la terre? L'agneau est sur le trône et eux, ils règnent sur la terre. Là, quelque chose s'est produit que le Seigneur nous montre. Tout au fil du temps, le Seigneur nous montre qu'il obtient son règne sur la terre. Et il ne le fait pas seul. Il l'accomplit, comme c'est écrit là. Pour ceux qui, sur le trône, il est l'agneau qui était comme là, comme immolé. Nous, il a un dessein, nous y reviendrons. Mais il est comme immolé. Et il a racheté par son sang des hommes. Pas seulement des hommes pour la rémission des péchés. Que le Seigneur nous ouvre les yeux et ouvre les yeux de tous les chrétiens parce que nous avons une vision tellement restreinte. Nous, avant même que le Seigneur ne parle, nous disons déjà « ok ». Mais le Seigneur voudrait peut-être dire plus. En fait, il ne s'agit pas seulement de la rémission de tes péchés. Mon amour n'est pas seulement là pour que tu n'ailles pas dans la perdition éternelle. J'ai versé mon sang pour te racheter, pas seulement toi. Mais il est dit de chaque tribu, de chaque langue, de chaque peuple, de toutes les nations. Louez le Seigneur. Ce matin, nous avons déjà quelques nations ici, d'après leur langue. Donc, l'agneau a racheté pour Dieu, par son sang, des hommes. Nous appartenons à Dieu, nous ne nous appartenons pas à nous-mêmes. Souvent, cette conscience nous manque, que Dieu veut faire quelque chose avec nous. Dieu a prévu quelque chose pour nous. Il nous a acheté ou racheté avec une vue bien précise, un objectif. Si j'achète un portable, c'est que j'ai quelque chose en vue, de même pour un portable. La même chose pour une voiture. Dieu t'a racheté, et toi. Mais dans quel but? Il avait vraiment quelque chose en tête. Quel est cette vision. Il a fait d'eux un royaume et des sacrificateurs pour notre Dieu, et ils régneront sur la terre. C'est le verset 10. Louez le Seigneur. Malheureusement, beaucoup de croyants, beaucoup de chrétiens pensent que Dieu les a sauvés pour qu'un jour ils soient avec eux dans le ciel. Ça, c'est ce que Dieu a en tête. Mais ici, dans Apocalypse 5, il y a quelque chose d'autre écrit. Il nous a rachetés afin que nous régnions sur cette terre. Donc, il est bon aussi d'entendre cette parole. Mais comment est-ce possible cela? Comment est-il possible ce règne? Le Seigneur a une préparation pour que ceci soit possible. Et c'est pour ça que nous avons écrit notre unité avec le Christ en ascension. Dieu a quelque chose de prévu. Et louez le Seigneur. Pour cela, il nous a rachetés et il nous emmène dans ceci. Ça, c'est grandiose. C'est un tel privilège que n'a aucun ange. Nous avons plus de valeur qu'un ange. Tu peux te dire, oh, je suis un pauvre pécheur. Non, tu n'es pas un pauvre pécheur. Dieu a une appréciation de toi. Pas parce que tu es tellement malheureux, mais parce qu'il t'a appelé pour établir son règne avec lui et avec nous. Seigneur, ouvre nos yeux. Que pensons-nous de nous et comment voyons-nous l'Église? Cela est en très étroite relation avec l'Église. Et j'aimerais retourner au tableau et je vais dessiner un axe du temps. Malheureusement, je vais pas trop parler. Je vais dessiner au tableau. En fait, un axe des temps est assez vite tracé. Donc, je ne parlerai que quand je me retrouverai près du micro. Donc, voici, j'ai dessiné l'axe des temps. Je ne sais pas si la caméra est assez proche pour bien le montrer. Mais donc, au début de la conférence, sur cet axe des temps, à gauche, nous avons commencé dans l'Ancien Testament. Et donc, ici, je mets un point toujours à gauche. Là, il y a la première venue du Seigneur. Et si je raconte quelque chose à ce sujet, que je le décrive, je rappellerai simplement quelques versets que nous n'allons pas lire, puisque ce n'est pas le point central maintenant. On n'a pas assez de temps. Mais je citerai des versets, je les évoquerai. Et j'espère qu'il y a aussi des jeunes gens là. Malheureusement, je ne vois personne, ou quasiment personne, et je ne vous vois pas, vous tous qui êtes là. J'espère qu'il y a aussi des écoliers, des étudiants, et je les exhorte à faire attention. C'est un travail pour vous, les jeunes. Quand j'évoque des versets, que plus tard cet après-midi ou ce soir, peu importe, que vous alliez dans ces versets et que vous les cherchiez dans le Nouveau Testament. Donc, je dis, c'est sûr que vous avez des vacances, mais utilisez le temps aussi, prenez la parole et rentrez de nouveau dans ces versets. Et recherchez ces points. Où est-ce que c'est écrit ça? C'est vraiment dans la parole. Et ce que j'aimerais dessiner, c'est, en fait, ce que j'aimerais montrer quelque chose en dessinant là au tableau. Donc, le premier point de la première venue du Seigneur, il y a quelque chose qui se produit. Il y a comme une coupure ici. Quelque chose de vieux s'arrête et quelque chose de nouveau commence. Mais c'est Dieu qui commence quelque chose de nouveau, ce ne sont pas les hommes. Mais dans ce qui est nouveau, il appelle des hommes à collaborer avec lui, de venir à lui. Et ce premier, donc cette première coupure de la venue, il est dit, le Père a envoyé son Fils. Il a dit, au début était la parole, et la parole était avec Dieu. C'est dans les évangiles. Et la parole est devenue chair, et nous avons vu sa gloire, comme la gloire de son Fils unique. Nous avons vu sa gloire. Donc ici, le Fils n'est pas seulement un prophète, c'est pas seulement un homme bon. Beaucoup de personnes se souviennent ces jours-ci. Ah oui, Jésus a été né ce jour-là. Il ne s'agit pas de quelque chose de religieux. Il s'agit ici d'une coupure dans le temps. Tout ce qui est vieux, qui existait jusqu'à ce moment-là, était juste bon. Mais là, à ce moment-là, Dieu a envoyé son Fils. Et là, tout devient autre, tout devient nouveau. Et par ce Fils, il œuvre sur la terre. Donc, il est venu quand les temps étaient accomplis. Un temps accompli. Et Dieu dit, maintenant vient mon Fils, né d'une femme, sous la loi. Néanmoins, il y a eu une coupure. Et nous avons lu dans l'épître aux Philippiens, il a pris la stature d'un homme. Donc, une autre coupure. Donc, ici commence une nouvelle époque, une nouvelle période. Quoique Dieu fasse quelque chose de nouveau, l'ancien continue. C'est pour ça qu'il ne faut pas se laisser tromper. Dieu est pour les deux. Non, même si ce qui est vieux continue. Il y a toujours encore la religion juive. Il y a toujours encore la loi et les ordonnances. Cela continue. Mais néanmoins, Dieu a fait une coupure ici pour commencer quelque chose de nouveau. Et nous avons été appelés pour cela, pour ce qui est nouveau. Donc ce qui est nouveau, là, c'est quelque chose de particulier, d'unique. Je reviendrai sur ce point-là. Cet homme, Jésus-Christ, qui était sans péché, il est allé à la croix. Le frère dessine la croix au tableau. Beaucoup d'hommes pensent, voilà, ça c'est le but définitif. Depuis la naissance, puis la mort à la croix. Cette mort à la croix était extrêmement importante après sa naissance. Mais à la croix, Dieu a accompli son œuvre. Il a une œuvre. Jésus, son Fils, est venu pour accomplir une œuvre, l'œuvre de Dieu, pendant cette période sur la terre. Oui, il accomplit une œuvre. Et cette œuvre passe par la croix. La crucifixion a fait énormément, pas seulement la rémission des péchés. Mais malheureusement, beaucoup de chrétiens s'arrêtent ici à la croix. Mais nous devons regarder plus loin. Qu'est-ce qui se passe après? Il est descendu dans les parties inférieures de la terre, et puis, il n'y est pas resté longtemps. En fait, il est monté en ascension après, au-dessus de tous les cieux. Et Dieu l'a mis au-dessus de tout. Il lui a donné le nom qui est au-dessous. Dans ce nom, tout genou fléchira par rapport à ce nom. Ici, ces hommes, tous les hommes plieront le genou devant lui. Il y a un processus. Il est monté en ascension, il a été élevé au-dessus de tout. Loué le Seigneur. À la croix, il était abaissé, même durant sa vie. Mais ensuite, il est monté jusqu'au trône. Et depuis le trône, il a déversé l'Esprit afin que nous puissions recevoir l'Esprit. Et l'Esprit qu'il a déversé est aussi tellement décisif que le pas de la naissance et le pas de la crucifixion. Et donc ici, il déverse l'Esprit. L'Esprit que nous devons recevoir, l'Esprit est déversé, mais pas chacun reçoit l'Esprit, mais tous ceux qui reçoivent l'Esprit sont ou naissent de nouveau, naissent d'en haut. Où est-il écrit ce verset ? Être né d'en haut. C'est important. Là, vous avez le Père en haut, tout en haut. Oui, le Père est sur le trône. Le Fils de l'homme fait son œuvre sur cette terre. Ensuite, il est crucifié. Il est allé à la croix. Et il avait déjà vu en perspective la gloire, la joie qui viendrait. Et il s'est assis après à la droite du Père sur le trône. Donc maintenant, là, sur le trône se trouvent le Père et le Fils. Mais son œuvre, c'est comme nous l'avons entendu, il ne s'est pas arrêté. L'œuvre ne s'est pas arrêtée. Il a mené une œuvre ici, sur la terre, et cette œuvre, il a accompli à la croix. Et là, il a aussi une œuvre. Que fait-il ? Il accomplit aujourd'hui. Il y a une nouvelle coupure dans le temps. Donc c'est sa deuxième venue quand il viendra. Et Apocalypse 5 que nous lisons, c'est à la fin, dans Apocalypse 5, à la fin du temps, où nous avons encore 1000 ans et une autre période encore. Et ici, il a des hommes qui devront régner. Mais elle commence déjà ici. L'exercice pour régner commence déjà ici, aujourd'hui. Qu'est-ce que c'est que cette œuvre qui fait aujourd'hui? Je le dessine ainsi pour l'instant. Nous devons... Son œuvre commence dans le fait que nous recevions son esprit. Accepter son esprit est la chose la plus importante. Elle est décisive. Dans toutes ces différentes étapes, nous voyons qu'il y a toujours une unité entre le trône et la terre. Il y a toujours une unité entre le trône et la terre, entre le Père et le Fils. Une unité. Et souvent, nous faisons ici comme une coupure pour nous, ou selon nos sentiments, nous coupons. Il est sur le trône, nous sommes ici. Il nous donne des ordres depuis le trône. Nous prêchons l'Évangile. Ou bien il dit, bâti l'Église, ok Seigneur, nous le faisons. Donc c'est comme, et le Seigneur regarde en haut, ok, ça pourrait être mieux, nous nous exerçons. Mais non, ce n'est pas comme cela que ça doit se faire. Il y a une unité. Donc le frère efface de nouveau le pointillé qu'il avait mis horizontalement. Il s'agit d'une unité. Je reviens quand Jésus était sur la terre en tant qu'homme. Quelle était sa caractéristique ? Il était un avec le Père dans les cieux. C'était sa caractéristique. C'est la différence par rapport à toutes les autres activités religieuses. Il était un avec son Père dans les cieux. Il avait dit, je l'entends et je le vois. Cela vous était-il conscient? On l'a vu ces jours-ci. À combien c'est important d'écouter, d'entendre le Père et le voir. C'est une différence. Entendre parler de Jésus, entendre parler de Dieu le Père est différent de l'entendre lui-même. Et Jésus a dit aux pharisiens, vous dites, vous mentez quand vous dites qu'il est votre Père. Le Seigneur a tout exposé dans sa lumière. Il n'était pas un de ceux qui savaient plus que les pharisiens. Il n'était pas plus intelligent, il n'était pas meilleur comme homme. Il était différent, il était autre. Il était celui qui venait des cieux. Je vais lire un verset. Dans Jean 3. Dans Jean 3, il s'agit de cette unité entre la terre et les cieux. Jean 3, le verset 13. Donc Jean 3, verset 13. Il dit, Jésus, donc c'est Jésus qui parle avec les scribes, avec Nicodème. Nous connaissons la première partie. Et dit après, dans ce verset 13, donc qui suit. Bon, disons, commençons avec le verset 12. Si vous ne croyez pas quand je vous ai parlé des choses terrestres, comment croirez-vous quand je vous parlerai des choses célestes? Donc, il sait de quoi il parle. Personne n'est monté au ciel si ce n'est celui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme qui est dans le ciel. Comprenez-vous cela? Ça, c'est la vérité divine. Où est-il maintenant? Est-il dans les cieux? Est-il en bas? Est-il dans les cieux? Il est cette relation entre la terre et les cieux. Il est un avec les cieux. Avec différent de tout ce qui est dans les activités religieuses. Les pharisiens n'avaient pas tout faux, non. Il y avait aussi des choses justes. Mais il y a eu une coupure. Quelque chose est devenu différent. Et là, ils n'ont pas suivi. Dans Jean 1, qui se trouve sur le résumé, le verset 50 et 51, on lit les versets 50 et 51. Donc Jésus. Donc le verset 51 est important. Peut-être que quelqu'un sur online peut le lire. Donc Jean 1, les versets 50 et 51. Jésus lui répondit. Parce que je t'ai dit que j'étais vu sous le figuier. Tu crois, tu verras de plus grandes choses que celles-ci. Et il lui dit, en vérité, vous verrez désormais le ciel ouvert et les anges de Dieu monter et descendre sur le Fils de l'homme. Amen. Vous verrez désormais le ciel ouvert. Comment cela voit-il le ciel ouvert? Cette image dont il parle là, et avec les anges qui montent et descendent sur le Fils de l'homme, c'est en relation avec l'Ancien Testament. Cela décrit le rêve de Jacob alors qu'il était en fuite. Il a dormi, il a fait un rêve alors qu'il était la tête reposée sur une pierre, et il a rêvé. Il a vu l'échelle. Et sur l'échelle, il y avait des anges qui montaient et descendaient. Et quand il s'est réveillé, il a dit, « Oh, ce lieu est saint, ici vit le Dieu vivant. » Et il a eu la crainte. Et il a dit, il a érigé cette pierre, et même il l'a oint, en disant, « C'est ici la maison de Dieu. » C'était un rêve spécial à voir avec l'élection et avec la maison de Dieu à l'époque dans l'Ancien Testament. Et cette image, c'est Jésus qui l'emploie ici. Et il dit, vous verrez le ciel ouvert. Vous ne verrez pas seulement quelques signes, mais vous verrez le ciel ouvert. Et les anges de Dieu monter et descendre sur le Fils de l'homme. Donc là, il y a une relation Le frère dessine l'échelle. L'échelle. Et quelque chose se passe sur cette échelle. Il y a un trafic céleste. Il y a quelque chose qui se produit là. Je vois toujours ce que fait le Père. Je l'entends toujours. Pas seulement maintenant j'ai un peu de communion avec le Père, maintenant je l'entends un peu. Non, mais il y a vraiment une unité. Et par cette unité, par cette relation, Dieu accomplit son œuvre sur cette terre. Et c'est quelque chose de tout à fait différent de toutes les autres activités religieuses qui existaient en même temps à l'époque. Et puis, nous venons dans notre époque actuelle, après la crucifixion, l'ascension et que l'Esprit a été déversé. Nous avons aussi quelque chose dans le chapitre Jean, dans le chapitre 3 de Jean. Nous en venons au premier verset. Quand on parle du trône, il s'agit du règne de Dieu, le trône qui est dans les cieux. Et là, au verset 3, Jean 3, verset 3, donc quelqu'un peut le lire. Jésus lui répondit, « en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. » C'est un verset très connu. Amen. Et lis aussi le verset 5. Jésus répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Amen. Je te le dis, si un homme ne naît d'eau, ça veut dire que c'est une nécessité. Naître de nouveau veut dire aussi d'en haut. Jésus est venu en tant qu'un homme, mais il venait d'en haut. C'était un homme. Mais ce qui le désignait, caractérisait, il venait d'en haut. Ici. Nous, nous sommes des hommes. Mais il ne veut pas faire de nous des hommes religieux, comme dans l'Ancien Testament. L'Ancienne Alliance, pardon. Mais il veut nous donner la vie d'en haut. Nous avons besoin de la vie d'en haut. Remarque cela. Il y a là une relation. Je dis peut-être, ok, super, mes problèmes vont devenir moindres. Non, non, peut-être que ça va devenir différent. Non. Je ne peux pas vous donner l'espoir que le Seigneur ôtera tous vos problèmes. Non, mais il s'agit que nous soyons nés d'en haut et que nous recevions cet uniton avec la réalité céleste. Nous sommes donc ici, nous sommes célestes. Dans ces derniers temps, un verset avait été cité dans le verset 6, que nous avons été assis dans les lieux célestes, en Christ. Là, cette relation est cruciale. Mais recevoir l'Esprit, ce n'est pas encore la préparation pour ce règne ici pendant les 1000 ans. L'œuvre de Dieu. Je reprends, désolé, on l'a lu dans Éphésiens 4. L'œuvre de Dieu. Je ne sais pas comment je peux dessiner. Je ne suis pas l'artiste. Mais comment pourrons-nous être bâtis ensemble? Pour le dessiner par un schéma, ce n'est pas évident. Donc, le frère dessine une personne. Donc, nous sommes édifiés en un nouvel homme, pas en plusieurs nouveaux hommes, mais nous devons être édifiés ensemble, assemblés ensemble, bâtis ensemble pour un homme nouveau. Ça, c'est l'œuvre. Et c'est l'œuvre que Dieu fait aujourd'hui. Et c'est pour ça qu'il donne tous les dons, qu'il donne tout l'approvisionnement. Il ne donne pas les dons pour que chacun ait un don et s'en réjouisse. Que des hommes soient sauvés, arrivent à la foi, apprennent beaucoup, sachent beaucoup. Non, pas du tout. Il donne ses dons afin que ce corps soit édifié. Et si tel n'est pas le cas, ces dons n'accomplissent pas son dessein. il est toujours bon quand des hommes sont sauvés naturellement, ça c'est clair, ne me comprenez pas mal. Mais nous ne perdons pas ce que Dieu a en vue. Il veut bâtir ses églises, il veut bâtir son corps. Et son corps, son église, qu'évoque Éphésiens 1, cette relation entre la tête dans les cieux avec le corps de l'église, c'est une unité. Et ici, nous apprenons à régner avec Christ. Et là, il y a beaucoup à apprendre. Et avec lui, ensemble, nous ne sommes pas des observateurs. Ou nous nous occupons nous-mêmes. Non, non, nous n'avons rien de mieux à faire. Alors, en tant que chrétien, ça fait quoi faire? On va bâtir l'église. Non. Mais nous sommes dans cette unité avec notre Christ qui est sur le trône. Et lui, il est dans cette unité avec nous. Et là, il y a aussi cette relation de la vie entre la terre et les cieux, entre le corps et la tête. Quand notre corps est édifié, notre corps, tous, est maintenu ensemble. Souvent, dans nos pensées, nous avons tellement de choses théoriques. Oui, l'essentiel que nous soyons des chrétiens, et alors nous sommes tous l'Église parce que nous sommes des chrétiens. Le Seigneur comprend autre chose par Église que simplement des chrétiens, des personnes qui sont nées de nouveau. Lisez Éphésiens. L'Église, pour lui, c'est autre chose. L'Église, c'est que nous sommes édifiés, nous, ensemble, tenus ensemble, et ensuite, oui, édifiés ensemble. Donc d'abord assemblés et ensuite édifiés ensemble. Tous ceux qui ont reçu l'Esprit. Et là devient visible cette unité de l'Esprit. J'ai l'Esprit. Oui, nous avons tous reçu l'Esprit qui sommes là. Et néanmoins, nous pouvons néanmoins vivre dans notre être naturel. Ma vieille vie, mon moi, terrestre, humain, ma vieille vie est d'en bas. Elle est terrestre. Et là aussi, avec cela, je peux faire quelque chose pour Dieu. Et là, on a des œuvres religieuses. Désolé. Ce qui est caractérisé, et c'est caractérisé par ce qui est vieux, ce qui est humain, la caractéristique de notre vieil homme. C'est pas que ce soit toujours mauvais. Non. Mais ce qui est bon est vieux aussi. Dans Galates, nous avons lu récemment, Paul a insisté comment il sert, comment il dit que ce qu'il partage n'a rien à voir avec la sagesse humaine. Ce n'est pas par les hommes, il n'a pas appris par les hommes. Il a dit, cela vient de Dieu par une révélation, par l'Esprit. Donc, si nous sommes dans notre homme, nous pouvons créer des groupes. Oui, c'est possible. Mais ceci n'est pas l'unité dont parle Dieu. Ça, ce sont des œuvres religieuses, humaines. Quand Jésus était sur terre, il y avait aussi des œuvres religieuses. Et si aujourd'hui, tu parles à des chrétiens, tous te diront, nous sommes pour l'Église. Non, je ne pense pas que qui que ce soit te dise, non, je ne suis pas pour l'Église. Tous sont pour l'Église. Ils sont tous pour l'Église, tous pour l'unité. Alors, venons, bâtissons ensemble l'Église à cet endroit où nous sommes. Alors, ils disent, non, tous sont pour, mais ce qui ressort, c'est une autre expression, pas cette unité. Et ce n'est pas possible, parce que nous devons connaître la vie du temps de Jésus. Si tu avais posé la question aux pharisiens et aux scribes, êtes-vous pour le Messie ou êtes-vous pour le Christ? C'est le même mot, Messie ou Christ. L'un vient de l'hébreu et l'autre vient du grec. C'est loin, en fait. Tous attendaient, loin. Tous avaient la connaissance. Oui, ils avaient la connaissance. Ils pouvaient même s'enseigner les uns les autres. Où naîtrait-il? Ils attendaient même des signes. Ils savaient quand les rois mages, quand les mages sont venus, où naîtrait Jésus. Ils avaient vu l'étoile. Ils savaient où ils devaient l'envoyer, où les envoyer, parce qu'ils avaient la connaissance. Ils étaient tous pour le Messie. Mais il était parmi eux, mais ils l'ont crucifié. Ils l'ont même persécuté. Ils étaient insatisfaits de lui. Quelque part, il les a dérangés. Donc la connaissance seule ne suffit pas. De quoi avons-nous besoin? Une révélation. Révélation veut dire voir. Combien de fois est-il dit vois, vois, nous devons voir. Pierre a vu. Frère et sœur, ça, c'est important que nous voyons aussi cette image-là qui est au tableau. Il y a eu le temps où Jésus était avec ses disciples, il les a pris à part sur une montagne. C'était un temps un peu particulier sur la montagne. C'est dans Matthieu 16. Et dans Matthieu 16, que disent les gens à mon sujet? Ils répondirent, les uns disent que tu es Jean-Baptiste, les autres Élie. Il y a beaucoup d'opinions. Ou des prophètes. Tout ça, c'est positif. Et alors, Jésus leur a posé la question, et vous, que dites-vous que je suis? Et c'est là que Pierre a dit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Matthieu 16, tu es le Christ, le Messie, le Fils du Dieu vivant. Et Jésus n'a pas dit, oui, mais d'où sais-tu cela? Et quel verset as-tu pour cela? Ah, où c'est écrit dans l'Écriture? Montre-le-moi. Ils n'avaient pas d'études bibliques où Jésus les enseigne. Voilà, il est question dans Genèse, il est question de moi, dans les psaumes, il est question de moi. Et maintenant, vous devez croire. Parce que mon explication est juste. Que je suis le Messie. Non, pas du tout. C'est un tout autre domaine. Pierre a vu. Tu es le Christ. Peut-être qu'il ne savait même pas pourquoi il disait ça. Jésus a dit, c'est le Père qui t'a révélé cela, qui est dans les cieux. Le Père dans les cieux le lui révèle. C'est de la même chose pour l'Église. Nous avons besoin d'une révélation de l'Église. Il ne s'agit pas de convaincre au travers des versets. Peut-être que j'ai plein de versets, mais ça ne veut pas dire que je suis vraiment qualifié pour bâtir l'Église. Peut-être même que je la détruis avec ma bonne connaissance, ma connaissance juste. J'ai besoin de révélation. Et la révélation, chacun peut la recevoir. Pierre était un comme nous. Si Pierre peut recevoir une révélation, c'est lui. Même s'il était à côté de la plaque, comme nous. Dieu nous donne aussi la révélation concernant l'Église. L'Église n'est pas simplement un groupe chrétien. Et nous ne nous mélangeons pas avec d'autres œuvres, d'autres activités. L'œuvre que Dieu fait, celle-là, nous voulons y participer. Il n'a pas non plus dit à Nicodème, « Ok, tu as appris quelque chose de bien, allez hop, pendant la prochaine distribution aux 5000, toi aussi tu vas pouvoir dire quelque chose. » Non, c'est un tout autre domaine, pas de mélange. Cette œuvre qui est décrite, qui nous a révélée, nous ne savons pas pourquoi nous sommes là-dedans, nous ne l'avons pas mérité, mais nous remercions le Seigneur. Nous disons merci Père. Merci Seigneur, tu nous as donné l'esprit de sagesse et de révélation. Toi, te connaître et l'Église. Oh Seigneur, mon corps. Quand mon corps est bâti ensemble, le sang coule. Le sang, c'est la vie. Si je n'ai qu'une main et un pied, j'ai bien une main là et un pied là, mais les membres ne sont pas le corps. Les membres doivent être assemblés. Et ça se fait par le fait que l'esprit distribue, l'esprit coule depuis les cieux vers toi, de toi vers moi. Il y a cet écoulement de l'esprit. Il est question de l'unité de l'esprit. Tu dois connaître l'esprit. L'esprit doit couler. Seigneur, ouvre-nous les yeux. Et cela nous prépare. Cela nous prépare et nous. J'en arrive au point C. J'ai déjà parlé beaucoup. Être vivant avec l'esprit. Si nous le voyons, cela. Un signe, quand il s'agit du royaume de Dieu, c'est la vie. Ce n'est pas compliqué. Ce que Dieu fait n'est pas compliqué. Son dessein n'est pas compliqué. Si je veux tout reconnaître avec mon intelligence, il n'y a pas d'accès. Tout est, c'est pas le mot compliqué qui est le bon mot. Mais je ne peux pas le reconnaître, je ne peux pas le comprendre. Mais quand l'esprit nous touche et nous ouvre les yeux, Dieu a fait tout cela d'une manière tellement simple et néanmoins tellement efficace. Dans la simplicité de Dieu, dans la simplicité, c'est Christ. Là, il y a la puissance de Dieu qui est en train d'œuvrer. On a l'efficacité. Quand ça devient compliqué, c'est un petit signe qu'il faut se dire, « Oh Seigneur, où je suis ? Je suis sûrement maintenant dans mon vieil homme, dans mes vieilles pensées, dans mes vieilles sentiments. » Quand je dis « mon vieil homme », ouais, je parle du vieil homme. Non, je parle du vieil homme, aussi des jeunes qui ont leur vieil homme. Là, tout devient compliqué quand nous sommes de le vieil homme. Non, Dieu le fait de manière très simple. Il dit, vois. Et j'ai besoin de dire, Seigneur, donne-moi l'esprit de révélation. Oui, je te donne mon cœur, Seigneur, et toi, tu me donnes ton esprit. Ouvre-moi les yeux pour que je voie. Et alors, la vie. Jésus est venu pour donner la vie, pour nous donner la vie, nous rendre la vie. Ça, c'est sa caractéristique. Certes, il fait beaucoup d'autres choses, mais vraiment le point principal, c'est de nous donner sa vie. Alors qu'il est ressuscité des morts, il est devenu l'esprit qui donne la vie, qui nous donne la vie, qui nous donne sa vie et qui nous rend vivants. Nous devons tous connaître cette vie. Nous pouvons tous la connaître, cette vie. Dans cette relation avec Jésus, quand nous soignons cette relation avec lui, c'est un exercice. Le contempler. Et dans cette vie qu'il donne lui, là se trouve la force. C'est pas qu'il donne des directives et nous le faisons, mais non. Il nous donne sa vie, elle est en nous et nous laissons agir cette vie en nous et nous lui donnons de la place pour agir. Nous nous rendons un en esprit avec lui. Et il œuvre son œuvre, ou il fait son œuvre. Nous avons simplement besoin d'être volontaires, de lui donner notre cœur, de recevoir son esprit. L'esprit est là, il a été répandu. Et moi, j'ai besoin d'être prêt à recevoir, de prendre la vie. Mais après, laisse œuvrer cette vie. La vie réagit. La vie agit. Dans cette vie, il y a la puissance et elle a une capacité, une caractéristique. C'est une vie qui règne. C'est la vie de résurrection. Peut-être que certains disent, pas seulement les sœurs, mais aussi les frères, oh là là, non, pas moi. Moi, non, je ne suis pas qualifiée pour régner. Moi, je préfère jouir de me réjouir. Et toi, moi, je prends la jouissance et toi, tu prends le fait de régner. Mais le fait de régner n'a rien à voir avec le vieil homme, mais avec la vie que Dieu a mise en nous. Si tu as une sœur, un jeune parrainier, sois surprise, mais tu es en train de régner. Tu dois régner. Depuis notre nouvelle naissance d'en haut, nous devons régner. Et le règne a commencé, en fait. L'esprit réagit. Donc, tourne-toi. Renie ton moi. C'est quoi ça? Ah ben, tu commences à régner. Tu juges ce péché en toi. Que fais-tu? Tu règnes. Maintenant, tu dis rien? Stop. Tu suis l'esprit? Ben, tu règnes sur ton vieil homme. Maintenant, parle. Témoigne de moi. Que fais-tu? Tu règnes à ce moment-là. Nous ne savons même pas combien de fois nous avons déjà régné. Tu as la communauté de frères et sœurs. Oh, j'ai pas envie. Tu te tournes vers l'esprit et l'esprit, là-dedans, se trouve le règne de l'esprit. Et tu vins ton non-envie. Et là, tu es un vainqueur par cette vie que tu as reçue. Et moi aussi, je suis un vainqueur. Louez le Seigneur par cette vie. Je ne peux pas, non. Ça ne fait rien. Nous avons reçu la vie. C'est bon. Que tu puisses ou pas, il est meilleur que tu ne puisses pas. Mais prends la vie. Tu as la vie. Décide-toi pour la vie. Et en prenant simplement la vie, tu commences à régner. Quand tu te décides pour la vie, ici nous sommes assis sur nos chaises. Oui, je devrais prier. Je devrais participer. J'arrive pas à ouvrir ma bouche. Commence à régner. Seigneur Jésus, il y a beaucoup de domaines. Et souvent, nous n'avons même pas conscience d'avoir fait de telle ou telle expérience par cette vie qui règne en nous. Nous régnerons dans la vie par la grâce qu'il nous donne. Et quand nous régnons, nous acceptons la responsabilité. Je suis appelé à accepter la responsabilité. C'est la vie de résurrection. J'aimerais lire encore un verset dans Apocalypse, tout à la fin, dans le dernier chapitre, chapitre 22, au verset 1 et 2. Amen. Et il me montra un fleuve d'eau de la vie. Dieu va nous montrer cela. Il le montre à la fin. Un fleuve d'eau de la vie, limpide comme du cristal, qui sortait, d'où sort-il? Du trône de Dieu et de l'agneau. Nous retrouvons le trône. C'est une caractéristique du trône. Là sort l'eau, la vie. Au milieu de la place de la ville et sur les deux bords du fleuve, il y avait un arbre de vie, produisant 12 fois des fruits, rendant son fruit chaque mois. Ça, c'est l'image du trône. Quand nous disons dans la communion, être en communion avec le trône, c'est une expression de la vie. Nous recevons cette vie qui vient du trône. Nous ne la produisons pas. Nous la recevons, cette vie. Nous buvons l'eau de vie qui coule du trône. Nous mangeons de l'arbre de vie qui pousse le long de ce fleuve de vie. Et là, le trône va être exprimé. Aussi dans Apocalypse 5, il y a 4 êtres vivants qui sont là. Ils sont pleins de vie. Et nous exprimons cela. Cela à voir avec le règne de Dieu, avec notre préparation, notre unité avec lui. Et à la fin de ce temps, quand viendra ce temps court, c'est pas que l'Église va attendre et alors. Non. Ils préparent cela ensemble. Il nous faut voir cela aussi. Si nous sommes dans cette unité avec ce Christ en ascension qui est sur le trône, nous œuvrons avec lui. Nous ne sommes pas séparés de lui. Il nous utilise pour terminer cet âge. Et je peux dire que j'ai déjà le désir de venir. Oui.
alleine bleibe. Manche wollen vielleicht auswandern.
Peut-être que certains veulent déménager, qu'on soit au Canada ou n'importe. Rien ne sert de déménager. Ok. Que le Seigneur œuvre encore. Il œuvre encore quelque chose. La terre va bouger. Certaines choses vont être ébranlées. Afin que nous aussi, nous soyons tous convaincus que ce n'est pas le lieu où nous désirons rester. Mais nous ne voulons pas aller dans les cieux. Mais nous voulons terminer cet âge. Donc Seigneur, viens bientôt. Seigneur, viens bientôt. Utilise-nous pour annoncer l'Évangile afin que les nations puissent entrer dans cette édification du corps. Et nous prions pour que tout ce qui doit être jugé soit jugé. Nous œuvrons avec le Seigneur. Nous collaborons avec lui. Oui, Seigneur Jésus. Amen. Que nous voyons cette unité. Terre et ciel. Christ et l'Église. Ce n'est pas une question de doctrine. Il ne s'agit pas d'assembler la connaissance et transférer ceci dans quelque chose de pratique. Non, c'est de vivre dans la communion avec l'Esprit, avec ce Christ qui est sur le trône et qui œuvre en nous en tant que cet Esprit qui œuvre en nous et qui aujourd'hui nous dirige, nous discipline, nous sauve de tant de choses. Nous avons besoin les uns des autres. De même que Christ a besoin de nous, nous on a besoin les uns des autres pour que le Seigneur puisse bâtir son règne. Amen. Manifester notre hardiesse, c'est le point D. Ouais. Ne pas nous laisser voler notre liberté, notre hardiesse. J'ai encore deux minutes. Vous voyez, si nous touchons cette vie aussi est caractérisée par notre hardiesse. Autour du trône, beaucoup de louanges, de prières, de l'hardiesse avec des voix fortes. Amen, c'est de l'hardiesse. Et quand l'Esprit œuvre en nous, nous avons l'hardiesse. Si moi, je veux agir par moi-même, je n'ai pas de hardiesse. Mais nous avons l'hardiesse parce que nous avons ce Christ avec lequel nous sommes un. Les apôtres commencent parce qu'il leur donne la hardiesse, l'assurance. Et il est question aussi de la hardiesse de Paul qui continue à prêcher pour le royaume de Dieu. Nous n'avons pas l'hardiesse parce que nous sommes bons, mais parce que nous avons le Seigneur en nous et entre nous. Louez le Seigneur maintenant. Maintenant, vous pouvez parcourir